Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos. Alors, quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 17 janvier 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué les dernières remarques du président sud-coréen sur les relations de l'Iran avec les Émirats arabes unis, déclaration qu'il a qualifiée de totalement invalide. Un adolescent palestinien de 14 ans a succombé à ses blessures et a trouvé le martyr. Et pour en finir avec sa crise, le Mali demande des efforts supplémentaires de l'Algérie pour rapprocher les parties. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué, ce lundi 16 janvier, les dernières remarques du président sud-coréen sur les relations de l'Iran avec les Émirats arabes unis. Les qualifiant de totalement invalides, il a exigé une explication de la part de Séoul. Nasser Kanani, porte-parole de la diplomatie iranienne, a déclaré que Téhéran donnait suite aux propos interventionnistes du président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, concernant la qualité des relations de la République islamique d'Iran avec les Émirats arabes unis. S'adressant aux forces coréennes stationnées aux Émirats arabes unis lors d'une récente visite dans l'État arabe riverain du Golfe Persique, Yoon a tenté de faire un lien entre ce qu'il appelle prétendument la menace de la Corée du Nord contre son pays et celle de l'Iran contre Abu Dhabi. Le président sud-coréen est allé trop loin en décrivant l'Iran comme la nation la plus menaçante pour les Émirats arabes unis. Y réagissant, Kanani a déclaré que les remarques de Yoon révélaient son absolue ignorance par rapport aux relations historiques entre la République islamique d'Iran et les pays riverains du Golfe Persique, y compris les Émirats arabes unis, ainsi que son manque de connaissances sur les évolutions à grande vitesse en la lumière. Le ministère des Affaires étrangères poursuit assidûment les positions récentes de ce pays, en particulier les propos tenus par son président sur les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis qui manquent totalement de validité diplomatique, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, ajoutant que l'Iran attendait des explications du ministère sud-coréen des Affaires étrangères à cet égard. Or, dans un effort apparent pour empêcher que les relations Téhéran-Séoul ne dégénèrent en controverses diplomatiques, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré ce mardi 17 janvier que la récente remarque du président Yoon Suk-yeol à propos de l'Iran lors de sa visite aux Émirats arabes unis n'était pas pertinente pour les relations diplomatiques de la Corée du Sud avec l'Iran ou d'autres pays. Depuis l'établissement de relations diplomatiques avec l'Iran en 1962, notre pays entretient des liens d'amitié et de coopération avec l'Iran et notre engagement à continuer de développer des relations bilatérales amicales avec l'Iran reste ferme, a déclaré le ministère. Omar Lutfi Hamour, adolescent palestinien de 14 ans qui avait été blessé lundi 16 janvier au matin par balle des militaires israéliens, a succombé à ses blessures et a trouvé le martyr. Selon la chaîne Al-Alam qui cite le ministère palestinien de la Santé, L'adolescent palestinien avait reçu une balle dans la tête lors d'une attaque des militaires israéliens contre le camp de réfugiés d'Al-Daïcha, près de Bethléem en Cisjordanie. Des sources d'information font part d'une vaste attaque des militaires israéliens contre le camp d'Al-Daïcha et les maisons d'habitation des Palestiniens, suite à quoi de sérieux affrontements ont éclaté entre les deux parties. Les militaires sionistes ont tiré des gaz lacrymogènes, des bombes sonores et des balles réelles en direction des jeunes Palestiniens, parmi lesquels Omar Lotfi Ramour, 14 ans, qui a été blessé à la tête. Un autre jeune Palestinien, Mahmoud Salah Hamash, 24 ans, a été arrêté, lui, par les militaires israéliens. Toujours en Cisjordanie, le régime sioniste a démoli lundi des locaux commerciaux pas loin de l'entrée de la cité Azma, au nord-est de Rots occupée. Des médias locaux rapportent qu'après avoir bloqué l'entrée de Azma et installé un poste contrôle sur une place de la ville, les militaires israéliens ont détruit des centres commerciaux et des garages automobiles appartenant aux Palestiniens. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné les États-Unis pour avoir ciblé le secteur de la santé syrien avec des sanctions unilatérales, appelant à une action urgente de la communauté internationale et affirmant que les nouvelles mesures inhumaines s'inscrivaient dans le contexte du blocus cruel et contraire à l'éthique de Washington contre la nation syrienne. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que les sanctions imposées par le Bureau américain de l'industrie et de la sécurité entravent l'importation par la Syrie d'équipements médicaux et de pièces détachées pour un grand nombre d'hôpitaux publics et privés. Le ministère syrien des Affaires étrangères a noté que les hôpitaux ciblés, y compris l'autorité générale de l'hôpital pour enfants de la capitale Damas, fournissent des soins de santé à des millions de Syriens. Il a rejeté les fausses affirmations de Washington, selon lesquelles les médicaments et les fournitures médicales étaient exemptés des sanctions illégales, car aucune partie n'est exemptée des mesures coercitives unilatérales américaines. Il a appelé à une action urgente de la part des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé et du Comité international de la Croix-Rouge pour mettre fin à ces sanctions. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a exprimé ce lundi 16 janvier à Alger le souhait de son pays de voir l'Algérie fournir davantage d'efforts pour rapprocher toutes les parties maliennes en vue d'en finir avec la crise politique qui dure depuis plusieurs années. Reçu au deuxième jour de sa visite à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie malienne a salué aussi le rôle fédérateur que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la réconciliation au Mali. Le chef de la diplomatie malienne a indiqué aussi être porteur d'un message du colonel Goïta à son frère aîné, le président Tebboune, dans lequel il lui a transmis ses vœux de santé et de prospérité pour le peuple algérien, frère et ami. Selon lui, le message porte aussi sur la volonté du président Goïta d'œuvrer à en renforcer les liens séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux pays qui sont liés par un destin commun, a-t-il ajouté. Il a également souligné que M. Goïta fera tout pour que les relations entre les deux pays puissent évoluer dans l'intérêt suprême de nos deux peuples au-dessus de toute autre considération. Le chef de la diplomatie malienne est arrivé dimanche 15 janvier à Alger en compagnie de son collègue, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale de la République du Mali, le colonel Ismaïl Vak. Aussitôt après son arrivée dans la capitale algérienne dimanche après-midi, Abdoulaye Diop a eu des entretiens avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra. Les deux hommes, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ont examiné notamment l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La loi anti-inflation américaine et la fin de Made in Europe. Le coût de l'énergie porté à des niveaux records en 2022 à la suite de l'opération spéciale russe en Ukraine et la fermeture de gazoducs vitaux est devenu trop élevé pour que de nombreuses entreprises manufacturières restent compétitives si elles restent en Europe. Dans le même temps, un vaste ensemble de subventions américaines pour l'industrie verte a choqué et irrité les responsables de l'Union européenne qui voient les États-Unis, un allié supposé, inciter les entreprises à se délocaliser outre-Atlantique. Selon la revue Politico, dans un tel contexte déjà critique, les alliés européens de Washington sont en colère et désagréablement surpris par une loi américaine, la soi-disant loi anti-inflation, IRA, qui, sur le papier, vise à soutenir les industries vertes. En effet, ce paquet de mesures de près de 400 milliards de dollars pour le climat et la santé, comme le définit l'administration Biden, met en danger les industries européennes. Les subventions ne seront versées que pour des produits fabriqués aux États-Unis. Les Européens craignent surtout des délocalisations massives d'entreprises européennes ou américaines ayant investi en Europe et qui préféreront fabriquer sur le sol américain pour pouvoir bénéficier de ces aides. D'après Politico, la crise énergétique pèse lourdement sur les secteurs comme le verre, les produits chimiques, les métaux, les engrais, le papier, la céramique et le ciment, qui sont gourmands en énergie afin de pouvoir maintenir leur production à niveau industriel. Face à la concurrence économique toujours croissante entre la Chine et les États-Unis, désormais de plus en plus protectionnistes, les dirigeants européens mettent ouvertement en garde contre une contagion de la désindustrialisation affectant l'ensemble de la fabrication à travers le continent. En décembre, l'industrie manufacturière européenne en général et la puissance industrielle du continent, en particulier d'Allemagne, avaient résisté à la pire crise énergétique hivernale, réduisant la consommation de gaz d'environ 15%, sans baisse correspondante de la production globale. Mais avec des prix du gaz, malgré les chutes récentes, toujours environ 6 fois plus élevés que le prix moyen des 10 dernières années, et plus de 4 fois plus élevé que dans des pays concurrents comme les États-Unis, beaucoup craignent encore que les grandes entreprises ne se contentent que de délocaliser leurs opérations en dehors de l'Europe, tandis que les petites entreprises pourraient se replier entièrement. Les avertissements s'enchaînent sur le risque de l'anéantissement de l'industrie européenne et on entend beaucoup parler des appels à prendre les mesures coordonnées et immédiates au niveau de l'Union européenne. Certains pays d'Europe, tels que l'Allemagne et la France, ont même alloué des subventions pour sauver leurs industries. Le secteur manufacturier y reste toujours aux prises avec une crise existentielle. Pire encore, la crise pourrait s'aggraver davantage en hiver.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le ministre iranien des Affaires étrangères en visite à Damas a exprimé son ferme soutien à la nouvelle expansion des relations entre la Syrie et la République islamique d'Iran. De son côté, le président syrien Bachar Assad a dit que l'Iran était toujours à côté des Syriens dans la lutte contre le vrai terrorisme et que l'Iran était le pays le plus proche de la Syrie. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
En visite à Damas, le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé lors d'une réunion avec le président syrien que la République islamique d'Iran poursuivrait son ferme soutien à la Syrie, appelant à une nouvelle expansion des relations entre les deux pays sur divers plans. Lors d'une réunion avec le président syrien Bachar al-Assad, tenue à Damas samedi 14 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réaffirmé le ferme soutien de l'Iran à la Syrie et exprimé la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales sur tous les plans. En allusion à l'invitation faite par le président syrien Bachar Assad à son homologue iranien Ebrahim Raisi pour se rendre à Damas, le ministre iranien des Affaires étrangères a précisé qu'une telle visite ouvrirait la voie à un développement ultérieur des relations amicales et bilatérales entre l'Iran et la Syrie dans divers domaines. Pour sa part, le président syrien a décrit l'Iran comme le pays le plus proche de la Syrie qui s'est tenu à ses côtés pendant la guerre soutenue par l'étranger, ajoutant que Damas n'oubliera jamais le soutien que lui a apporté la République islamique d'Iran. L'Iran a été le premier pays qui a aidé la Syrie après le déclenchement de la violence soutenue par l'étranger dans son pays. En 2017, l'assistance consultative et militaire fournie par la République islamique a aidé la Syrie à vaincre le groupe terroriste Daesh. Le président syrien a ensuite fait allusion aux dernières évolutions politico-diplomatiques de son pays, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les consultations et la coordination entre les deux pays sur diverses questions stratégiques bilatérales et régionales. La République islamique est le partenaire de la Syrie, s'est félicité M. Assad, ajoutant que les deux pays continueront de s'entraider dans divers domaines. Avant de rencontrer Bachar al-Assad, le chef de la diplomatie iranienne a participé samedi 14 janvier dans une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien. L'Iran et la Syrie jouissent du meilleur niveau de relations bilatérales et sont résolus à promouvoir davantage leurs relations, en particulier dans les domaines économiques et commerciaux, a affirmé M. Amir Abdullahian. Divers accords ont été signés entre les deux pays qui seront mis en œuvre. Lors de cette visite, nous avons convenu de prolonger un document de coopération stratégique à long terme entre les deux pays qui sera signé dans un proche avenir, a-t-il poursuivi. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekted, a pour sa part souligné l'attachement de son pays à l'importance d'améliorer la coopération économique avec l'Iran, malgré les sanctions imposées à ces pays. Il a en outre déclaré que la Syrie avait fait de son mieux pour éradiquer le terrorisme.
Eh bien, voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Aïssar Midani, experte franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe PresTV et à vos auditeurs et à votre invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à Monsieur André Chamy, juriste international qui est avec nous depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à toute l'équipe. Et c'est la première fois qu'il me semble que je vous ai en ligne. Alors, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit une année de réussite pour tous ceux qui font partie de l'équipe et surtout pour votre projet personnel et politique. Et surtout également, bonjour à Madame Midani.
Merci, André Chamy. Ma première question va s'adresser à Aïssar Midani qui est avec nous depuis Paris. Alors, l'avenir entre les relations de l'avenir entre la Syrie et l'Iran est bien sûr très prometteur. Mais la Syrie apprécie et a toujours apprécié que l'Iran a toujours été aux côtés des Syriens, surtout durant la guerre, soutenue par les Occidentaux. Que pensez-vous, Madame Midani?
Absolument, ça a été une coopération et des rapports stratégiques importants dans la lutte commune contre le terrorisme, d'une part, contre l'hégémonisme américain et occidental, d'autre part. Et puis, surtout aussi, une coopération importante dans l'ensemble de ces luttes et dans la construction, je dirais, malgré les sanctions. Donc, les deux peuples ont toujours été l'un aux côtés de l'autre. Nous n'oublierons pas le général Qassem Soleimani, paix à son âme, qui a été assassiné par les Américains de manière absolument vile et inhumaine et complètement en violation de toutes les lois internationales. Mais le général Soleimani a aidé la Syrie effectivement avec ses conseils et avec sa véritable direction et ses renseignements à vaincre Daesh, justement, et à aussi les conseils des brigades de la Révolution ont permis aussi de vaincre les terroristes et de libérer quand même une bonne partie de la Syrie aujourd'hui, 90% libérer des terroristes. Donc ça, c'est vraiment une coopération constructive très importante, qui est très appréciée non seulement par la direction du peuple syrien, mais aussi par la totalité du peuple syrien, je dirais. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important et qu'on peut relever de cette visite, c'est qu'on a des relations stratégiques et politiques importantes depuis longtemps avec l'Iran. Je dirais aussi que la Syrie a été aux côtés de l'Iran lors de l'agression de Saddam Hussein contre l'Iran et ces derniers temps aussi pour faire face au terrorisme qui, de la même manière qu'il s'est attaqué à la Syrie, il s'attaque à l'Iran dans les derniers mois. Avec justement sous la direction des Américains et des services de renseignement britanniques. Donc la Syrie a toujours aussi affirmé son soutien à l'Iran. La question aujourd'hui qui se pose, c'est d'élever le niveau de coopération et d'accord, je dirais, stratégique entre les deux pays, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau de des autres domaines, donc stratégiques, qui sont comme tous les deux peuples, les deux pays, les deux peuples sont en but aux sanctions américaines qu'on appelle sanctions abusivement, qui sont rien d'autre que les mesures coercitives unilatérales imposées à nos peuples. Donc, dans ces difficultés de pouvoir subsister, je dirais, pour les peuples, il est important aussi de resserrer les liens et puis avoir et surtout une grande complémentarité économique à l'ombre de ces sanctions. Je sais que la Syrie, comme vous le savez, souffre beaucoup du manque de carburant étant donné le pillage systématique des Américains de nos ressources qui sont dans le nord-est de la Syrie, et le pillage aussi de nos ressources pétrolières, mais aussi gazières, mais aussi des ressources en matière de céréales, de blé, d'oliviers, etc. Donc, dans cette difficulté, effectivement, le fait que les deux pays se donnent la main permettront au peuple de mieux résister et de vaincre.
Absolument. Maître Chami, quand on parle de la coopération et l'expansion des relations entre la Syrie et l'Iran, il est question ici, bien sûr, de la lutte contre le vrai terrorisme. Et dans cette coopération depuis des années, surtout au début de la guerre, soutenue par les Occidentaux, l'Iran a su donc combattre le vrai terrorisme. Que pensez-vous?
Évidemment, maintenant, force est de constater que si l'Iran ne s'était pas trouvé dès le début de la guerre mondiale contre la Syrie aux côtés de ce pays et aux côtés de sa population, beaucoup de commentateurs diraient que la Syrie aurait peut-être disparu, en tout cas dans sa forme actuelle, avec son unité, avec sa population, avec sa diversité, avec ses religions et ses confessions, avec sa géographie, parce que l'idée de départ, c'était la répartition de la Syrie À l'époque, on avait utilisé même le terme « la libanisation de la Syrie », c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une volonté de morceler en quelque sorte la Syrie avec des zones confessionnelles, des zones religieuses, des zones où règnent en quelque sorte tous les ennemis de la Syrie actuelle. Et la République islamique d'Iran s'est trouvée aux côtés de la Syrie dès le premier moment de cette guerre et a eu effectivement dès le début un regard très perspicace par rapport au danger, c'est-à-dire ce n'était pas en guillemets de simples révoltes populaires qui voulaient du changement politique ou qui voulaient des changements institutionnels, c'était une volonté délibérée de briser la Syrie et de faire en sorte que cette Syrie n'existe plus. D'ailleurs, à peine antérieurement au début des événements en Syrie, il y a une responsable américaine qui s'appelait à l'époque Michelle Flournoy, avait clairement dit que si le président Assad se détachait de l'Iran et a arrêté son appui pour le Hezbollah, il n'aurait pas cette révolte. C'est-à-dire, on savait qui tenait les ficelles. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les regards oui. étaient dirigés vers la Syrie parce que c'est là que se trouvait en quelque sorte le cancer qui frappait l'axe de la résistance qui s'étendait de Téhéran jusqu'à Beyrouth parce que ça représentait un axe complet entre la Téhéran en passant par Irak, Syrie. Et jusqu'à Beyrouth, cet axe-là est un axe de résistance, c'est un axe d'espoir pour moi, pour les populations de la région. Et évidemment, c'est pour cela que les attaques sont tellement virulentes et sont tellement féroces contre et les populations et contre les gouvernants. D'ailleurs, ce qui s'est passé il y a quelque temps en Iran fait partie de ce plan global d'attaquer l'axe de la résistance. Et cet axe de la résistance tient bon, résiste. Et bien entendu, arrive à rendre coup pour coup pour vaincre définitivement oui. une bonne fois pour toutes ce qu'on appelle l'axe américano-sioniste qui essaye de s'installer dans la région avec tous ses alliés malgré les accords de normalisation. L'appareil politique, diplomatique, militaire fonctionne à merveille et continue de donner des coups dans le cerveau même, pour ne pas dire dans le logiciel même de cet axe américano-sioniste. Et nous voyons les résultats sur le terrain malgré ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle, précédemment à la visite pour la Syrie, il y a eu la visite pour le Liban, pour justement contrecarrer ce projet contre le Liban, pour vaincre sa résistance et mettre à genoux sa population. Et la République islamique d'Iran s'est trouvée aux côtés du Liban, a fait des propositions, mais malheureusement, la crapulerie, pour ne pas dire autre chose, d'une certaine classe politique libanaise qui ne veut pas de cette aide-là parce qu'elle est inféodée au projet américano-sioniste d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Liban est en quelque sorte exsangue et à genoux face à la difficulté économique, parce que cette difficulté économique est provoquée directement par les sanctions prises par les Américains, par l'empêchement des Américains de toute aide, de quelque nature que ce soit, y compris de l'aide de l'Iran, alors que l'aide de l'Iran a toujours été désintéressée, a voulu tout simplement porter secours à cette population qui se trouve dans la détresse. Et le seul qui a répondu sans arrière-pensée, c'était l'Iran. Et pour l'instant, malheureusement, ça n'aboutit pas. Mais à mon sens, ça finira à un moment donné par donner de l'espoir, parce que si l'État libanais ne veut pas bouger à travers ses institutions, comme l'avait fait par le passé le Hezbollah à travers l'aide apportée par la République islamique d'Iran, c'est-à-dire la fourniture de fuel ou de gasoil, et ben, malheureusement pour l'État libanais, c'est de nouveau le Hezbollah qui prendra la relève et à ce moment-là bâtira probablement, comme il a bâti d'autres institutions culturelles, sécuritaires, économiques, agricoles, etc., et ben, peut-être qu'il finira par bâtir.
Absolument. Aïssa Hamidani, vous avez évoqué tout à l'heure la continuation du terrorisme dans ce pays, car les États-Unis continuent à piller, et donc les richesses des ressources donc énormes de la Syrie, au nord-est de la Syrie. Mais si ça continue, évidemment, ça sera encore une autre lutte contre le vrai terrorisme. Que pensez-vous?
Effectivement, parce que de toute manière, là, il y a aussi le fait que les États-Unis réactivent Daesh à chaque fois qu'ils en ont besoin et qu'ils ont besoin. Ils ont des mercenaires qui sont le groupe FDS, Assad, en fait, qui sont... qu'on appelle les fronts démocratiques syriens, qui ne sont ni syriens ni démocratiques, et qui sont en fait, c'est un groupe de mercenaires dirigé par des Kurdes qui viennent de Wadi Qandil en Turquie. Il y a aussi Hayat Tahrir al-Sham qui a recommencé ses attaques déjà ce matin, cette nuit, contre l'armée arabe syrienne à l'ouest d'Alep et dans le nord de Latakia et dans la région. Donc il y a eu 3 à 4 soldats syriens qui sont montés en martyrs. Donc en fait les attaques terroristes recommencent puisque les Américains essayent de les réactiver. Et ceci, je voudrais quand même évoquer ceci à l'ombre et pour contrecarrer toutes les possibilités éventuellement de retour de la Turquie aux accords d'Adana et donc aux accords précédents 2011. On sait qu'il y a eu des grandes... La Turquie, elle fait partie en fait d'Astana, en fait, qui visait cette réunion d'Astana qui vise toujours non seulement l'apaisement, mais aussi la défaite des terroristes, ou d'une certaine manière, et puis ce que disaient les Russes, donc sous l'égide des Russes et de l'Iran, c'était l'objectif, c'est de séparer ceux qui sont en opposition politique des terroristes. Or, ça n'a jamais été possible puisque, de fait, ce sont les mêmes. Et donc, la Turquie avait signé tout un tas d'accords, en fait, d'Astana, notamment le dernier, c'était le dernier de 2019, qu'ils n'ont jamais appliqué, qui était de se retirer quand même jusqu'aux frontières de la Turquie avec la Syrie et puis de dégager l'autoroute M4, autoroute qui relie l'est à l'ouest de la Syrie. Or là, on voit que il y a quand même, n'empêche que Idlib était en fait cette partie du nord d'Idlib est devenue le vraiment une poche terroriste. Diverses et variées, mais en plus animées, aidées par la Turquie. En fait, aussi, à nouveau, ils reprennent leurs forces et leurs capacités et aussi leurs armements. Ils sont toujours armés avec les armes les plus sophistiquées. Mais, donc là, ils reprennent aussi parce que la Russie appuie fortement dans le sens d'un dialogue entre la Turquie et la Syrie. Il faut quand même rappeler que la Turquie est un pays de l'OTAN, que c'est aussi une base avancée américaine dans le Moyen-Orient, qu'ils ont tout fait, que tous les terroristes ont filtré en Syrie à partir de la Turquie. Et en fait, maintenant, la Turquie prétend que son danger vient de la Syrie. des Kurdes qui sont en Syrie.
D'accord. Donc, voilà. Oui, Maître Chami, le calme n'est pas tout à fait revenu donc en Syrie, malgré la forte coopération entre l'Iran et bien sûr la Syrie. Parlons de l'avenir, je vous prie. Avec cette expansion des relations entre l'Iran et la Syrie, est-ce que le calme sera revenu dans ce pays qui est encore et toujours pillé par les Occidentaux et surtout les ressources minières?
Vous savez, tous les événements qui se déroulent depuis plus de 10 ans dans cette région-là n'est qu'une succession, si j'ose dire, d'événements qui ont pour but de peser sur tout esprit de résistance. Et tous ceux qui sont derrière cet esprit de résistance et qui ont pu le soutenir à un moment donné, ce qui se passe, la guerre en Ukraine, on parle de la Russie comme agresseur contre l'Ukraine, tout cela est lié. Les événements en Iran sont également liés. Ce qui se passe en Syrie est lié. L'appauvrissement et la faillite du Liban est lié parce que c'est là que se trouve, en réalité, le front de résistance. Ce qui se passe en Irak est également lié. Il y a un espoir. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a 12 ans, j'avais fait le livre que j'avais intitulé « L'axe de l'espoir », parce que je pense que cet axe est important et porteur d'espoir. Parce que les peuples de la région n'ont fait que souffrir des méfaits des Américains et de leurs alliés, des méfaits des projets montés pour cette région, c'est-à-dire qu'on soit dans la guerre, si j'ose dire, software, c'est-à-dire la guerre souple, ou en tout cas tendre, ou la guerre agressive à travers l'arrivée des Américains dans la région. Systématiquement, la volonté est de briser toute volonté d'émancipation de cette région-là. Et à partir du moment où vous commencez à prendre votre avenir en main, bien entendu, les coups tombent. Les Américains sont habitués, ils n'aiment pas que l'on résiste. Et aujourd'hui, encore une fois, la Russie paye le prix, l'Iran paye le prix, la Syrie a payé et continue de payer le prix, le Liban paye le prix, l'Irak paye le prix. Tôt ou tard, ça finira par aboutir, c'est-à-dire notre résistance finira par être payante parce que il y a un poète tunisien qui disait que la volonté des peuples finissait par gagner. Et aujourd'hui, cette volonté est là. Cette volonté est portée par des esprits solides qui ont la capacité et qui ont, encore une fois, cette espèce de hargne de gagner. C'est comme ça que le Liban a gagné en 2006 contre l'Israélien alors que l'attaque était monstrueuse. C'est comme ça que la Syrie a pu gagner ou regagner ses territoires au fur et à mesure jusqu'aux quelques poches qui lui manquent encore. L'Irak a également gagné l'essentiel de son territoire. Le calme est revenu tout doucement, mais sûrement en Iran. La guerre finira par être gagnée par la Russie. Tout cela est porteur d'espoir et finira par donner un élan supplémentaire. Et à mon sens, la Chine se ralliera de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire ce ne sont pas des alliances de circonstances comme cela se produit depuis un certain temps. Ça va être stratégique parce que les intérêts des uns dépendent de ceux des autres. Et ça finira par, je dirais, aboutir parce qu'il y a un moment où chacun de ces peuples va comprendre que il ne peut exister qu'avec le lien avec l'autre, et l'Iran est en quelque sorte ce ciment qui solidifie les relations entre ces peuples-là, mais également entre ces pays, en maintenant leur souveraineté, en maintenant leur capacité. C'est la raison pour laquelle l'Iran participe à la reconstruction de la Syrie, participe Absolument. À l'aide pour le Liban pour lui permettre de se remettre sur pied, et le fait de la même manière en Irak, et tout cela dans le sens de l'espoir donné à cette région et à ses populations.
Tout à fait. Eh bien, on peut être d'accord avec vous, André Chami. Merci d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Aïssa Armidani, donc, qui était avec nous depuis Paris, experte franco-syrienne. Merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. L'un des domaines des sciences fondamentales et une branche importante des sciences expérimentales est la biologie. La science de la biologie est le fondement de la science qui traite en quelque sorte de la vie des organismes et peut expliquer de nombreux faits dans la nature. Ces faits peuvent inclure des facteurs héréditaires aux molécules et tissus corporels d'organismes et de sciences telles que la simulation. Le terme « biologie » est dérivé du mot grec « bio » signifiant « vie » et du suffixe « logia » signifiant « étude de quelque chose ». Bien que la biologie ait fait de nombreux progrès dans sa forme moderne, ces sciences connexes et dépendantes ont été étudiées depuis l'Antiquité. Il y a environ 12 000 ans, les humains ont acquis plus de contrôle sur leur environnement de vie en cultivant des plantes pour fournir de la nourriture, en domestiquant des animaux pour les utiliser. Les premiers étudiants de la branche de biologie étaient des guérisseurs appelés médecins magiciens. Ils étaient connus comme des spécialistes autochtones dans le traitement des maladies. Leur méthode de traitement était basée sur le recours à des plantes médicinales, à des prières, à l'appui des forces surnaturelles, ainsi que sur des pratiques de guérison acquises par l'expérience et non par l'étude. La philosophie naturelle a été étudiée dans les premières civilisations antiques de la Mésopotamie, de l'Égypte, du sous-continent indien et de la Chine. Cependant, les racines de la biologie moderne et la tendance à l'étude de la nature remontent souvent à la Grèce antique. Alors que l'étude formelle de la médecine remonte à Hippocrate et au 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristote a le plus contribué au développement de la biologie au 4e siècle avant Jésus-Christ. Son rôle de premier plan dans l'histoire de la vie animale et d'autres questions liées à la nature et aux activités expérimentales telles que les causes et les effets biologiques et la diversité de la vie revêt une importance particulière. Il a classé les animaux sur la base d'observations précises, d'un raisonnement et d'une interprétation minutieuse sans explication surnaturelle et a partagé ses connaissances dans 4 livres qu'il a rédigés. À la fin du XVIIe siècle, le néerlandais Anthony Philips van Leeuwendonck, formé comme un marchand de tissus, a travaillé comme tailleur de lentilles amateur et autodidacte. Cette personnalité hollandaise a découvert un monde microscopique inconnu dans lequel on pouvait voir des organismes vivants qui n'étaient ni des plantes ni des animaux. Dans les années 1830, Schein et Schwann ont présenté la cellule comme l'unité structurelle et fonctionnelle de base de tous les types de vie, y compris les plantes et les animaux, à l'aide d'un microscope, tout comme l'unité de base en chimie est l'atome. Jusqu'au XIXe siècle, l'étude des organismes vivants, appelée à l'époque histoire naturelle, portait principalement sur la diversité et la classification des plantes et des animaux, ainsi que sur l'anatomie et la physiologie animale. Mais les naturalistes ont utilisé des méthodes d'observation au lieu de méthodes expérimentales dans l'étude. Cette méthode a radicalement changé au XIXe siècle, une époque qui a donné lieu à des études systématiques des organismes vivants et de la description de leur fonctionnement. À cette époque, les sciences naturelles ont été remplacées par la nouvelle science de la biologie et les études dans ces domaines se poursuivent à ce jour avec une vitesse toujours croissante. On peut dire que les découvertes les plus importantes en biologie ont eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle lorsque Charles Darwin a développé sa théorie de la sélection naturelle. Il a fourni la base de l'évolution. L'évolution, désormais terme central de la biologie, est utilisée pour comprendre et expliquer l'unicité et la diversité des organismes vivants. Le livre de Darwin sur l'origine des espèces a fait sensation dans le monde scientifique en utilisant la sélection naturelle, mais les résultats des études de Gregor Mendel sur les caractéristiques de la plante de pois dans le jardin d'un monastère étaient difficiles à comprendre. Plus de 3 décennies plus tard, l'article de Mendel a été relu et proposé comme base de la nouvelle science de la génétique. En outre, cet article a expliqué la base des mutations qui conduisent à la sélection naturelle. Ce problème a semé la confusion chez Darwin et ses partisans et a remis en cause sa théorie de l'évolution. Ainsi, contrairement à Aristote qui tentait de comprendre toutes les connaissances de l'époque, l'étude de la biologie à partir de la fin du XIXe siècle est devenue de plus en plus détaillée, variée et spécialisée. Le monde est dorénavant témoin de l'émergence des sous-disciplines et des groupes de spécialistes formés professionnellement qui insistent sur la réalisation active des tests et des expériences. Aujourd'hui, la biologie couvre un large éventail de domaines académiques. Bon nombre de ces domaines sont parfois considérés comme des disciplines distinctes et indépendantes. Des domaines tels que la génétique, l'éthologie, la physiologie, l'anatomie, l'histologie, etc. L'un des principes fondamentaux de la biologie est que toute vie est née d'une origine commune à travers un processus d'évolution. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les organismes biologiques présentent une similitude significative d'unité et de processus. L'histoire évolutive de l'espèce qui raconte les caractéristiques des différents composants qui en sont issus, ainsi que sa relation généalogique avec d'autres espèces, s'appelle l'histoire raciale de l'animal ou de la plante. De nombreux points de vue différents en biologie ont produit des informations liées à la biologie. Les biologistes organisent les relations évolutives avec différentes méthodes et vérifient que ces méthodes incluent l'évolution raciale et la classification des organismes selon l'ancêtre commun. Les événements importants de l'évolution de la vie, tels que récemment découverts par les biologistes, sont brièvement décrits dans cette chronologie de l'évolution. Le document le plus ancien que nous avons sur les connaissances des Iraniens concernant les animaux est une tablette obtenue à Bogazkal, en Turquie. Cette tablette a été écrite en 1360 avant Jésus-Christ par une personne nommée Kikulish ou Kikul à propos de l'entraînement des chevaux. Georges Sardon, le père de l'histoire des sciences, a traduit cette tablette comme suit. Les chevaux les plus importants sont sélectionnés après une course d'essai. Après cela, ils placent les chevaux sous une couverture de laine pour qu'ils transpirent et perdent du poids. Il existe des instructions spéciales pour les nourrir et les abreuver. Par exemple, la paille doit être donnée avec la nourriture pour qu'ils mâchent mieux la nourriture. Dans le passé, les Iraniens savaient dresser des chevaux et monter à cheval et les ont enseignés aux Assyriens et à d'autres tribus. La tradition avesta en zoologie et en botanique se trouve dans la Bondaïche, qui est l'un des œuvres inspirées de l'avesta. Les animaux et les plantes ont été classés dans la Bondaïche, ce qui est très intéressant en termes de connaissances modernes. Cette classification se retrouve dans aucun des textes grecs et était spécifique aux Iraniens. Il est évident dans les sources historiques que les sciences musulmans iraniens ont également utilisé les enseignements de la biologie iranienne ancienne. Bien que le système biologique des scientifiques iraniens à l'époque islamique a été influencé par les croyances religieuses et était formé sous la forme d'enseignements religieux, il n'était pas dépourvu de raisonnements individuels et du passé historique des scientifiques.
Dans leurs écrits, les biologistes et encyclopédistes iraniens ont combiné les informations fournies par les travaux de leurs prédécesseurs, les propositions des voyageurs du monde et leurs observations objectives avec une vision critique et ont présenté de nouvelles opinions. À la suite de cette exploration mentale, ils ont présenté le système biologique basé sur des preuves et une documentation rationnelle d'une manière qui a suscité l'émerveillement du monde. Ces opinions peuvent être vues dans des œuvres de grands scientifiques tels qu'Abu Rehan Biruni et Zakaria Razvini. En outre, des livres tels qu'Al-Nabat, écrit par Abu Hanifa Ahmad ibn Dawood Dinavari sur la botanique et l'agriculture, quatre articles écrits par Nezami Arouzi de Samarkandi, dont le début porte sur l'origine des plantes et des animaux, sont parmi les autres livres qui font preuve de la connaissance en biologie des Iraniens, conservée et transmise aux scientifiques d'aujourd'hui.
Mm-hmm.